Leçon 1. Introduction à l'interprétation biblique. Objectif de la leçon. 1. Savoir pourquoi une étude approfondie de la Bible est importante pour le chrétien. 2. Être capable d'énumérer trois étapes nécessaires à l'étude de la Bible. 3. Commencer le processus d'étude minutieuse d'un passage choisi de l'Écriture. 4. Apprécier l'importance de l'illumination du Saint-Esprit pour l'interprétation de la Bible. Introduction. L'un des objectifs de ce cours est de vous aider à progresser dans votre étude personnelle et dans l'application l'Écriture. Une bonne première étape consiste à évaluer honnêtement vos pratiques actuelles de lecture de la Bible. Activité. Prenez quelques minutes pour discuter de vos pratiques actuelles de lecture de la Bible. Ce n'est pas le moment de vous critiquer les uns les autres, mais plutôt de réfléchir à la question. Comment est-ce que je lis la parole de Dieu? Voici quelques questions auxquelles réfléchir. À quelle fréquence est-ce que je lis la Bible? Quand je lis la Bible, combien de temps est-ce que je passe? Comment est-ce que je sélectionne les passages à lire? Est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je me souviens de ce que j'ai lu? Suis-je capable d'appliquer ces principes à ma vie? Quelles sont deux ou trois raisons pour lesquelles je ne lis pas davantage la Bible? Wei, un chrétien taïwanais, était croyant depuis 15 ans, mais ne montrait que peu de signes de maturité spirituelle. Il était frustré par son manque de croissance spirituelle. Après un culte du dimanche matin, sa frustration a fait surface. « Pasteur, vous me dites de lire la Bible. Vous dites que Dieu me parlera à travers sa parole. J'ai essayé. Je lis la Bible tous les matins et elle ne me dit rien. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le pasteur lui répondit « Wei, dis-moi comment tu lis la Bible. » La réponse de Wei soulignait un facteur important dans ses difficultés. Il répondit « Chaque matin, avant d'aller au travail, j'ouvre ma Bible et je lis un verset. » Le pasteur poursuivit « Est-ce que tu lis un livre entier de la Bible ou même un chapitre complet avant de passer au suivant ?» Non, je lis simplement un verset chaque matin là où ma Bible tombe ouverte. Et cela ne m'aide que rarement. Pour aider Wei à comprendre le problème posé par cette façon de lire la Bible, le pasteur lui demanda d'ouvrir sa Bible et de lire le premier verset qu'il voyait. Wei lut « Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galaad. » Abdias 1, 19. Le pasteur posa alors quelques questions à Wei. Où se trouve le Midi? Où se trouve la plaine? Où se trouve le territoire d'Éphraïm? La Samarie? De Benjamin? De Galaad? La réponse à chacune des questions était « je ne sais pas ». La semaine suivante, ils commencèrent une étude biblique sur comment lire la Bible. Au cours des semaines suivantes, Wei commença à apprendre certains principes d'interprétation de la Bible. Il apprit à comprendre comment l'Écriture nous parle aujourd'hui. L'objectif de ce cours est de vous aider à apprendre et à appliquer les principes de base de l'interprétation de la Bible. Grâce à ces leçons et exercices, vous obtiendrez des outils qui vous aideront à comprendre la parole de Dieu, à l'appliquer à votre vie et à l'enseigner aux autres. Pourquoi devrais-je étudier la Bible? Certaines personnes évitent de lire la Bible parce qu'elles pensent qu'elle est trop difficile à comprendre. Beaucoup de ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu ne savent pas comment l'interpréter ni l'appliquer. Étudier la Bible est un travail difficile. Est-ce que cela en vaut la peine? Pourquoi devrions-nous l'étudier? Dieu se révèle à travers l'Écriture. L'Écriture nous montre qui est Dieu. La parole de Dieu est une expression de la nature de Dieu. Psaume 119, 15, 27. L'Écriture nous montre comment Dieu pense, ce qui est important pour lui, comment il se comporte avec les gens et comment il agit dans l'histoire humaine. La loi de Dieu, ce qu'il exige, reflète son caractère, sa justice et sa sagesse. Psaume 119, 137. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devrions prêter attention à ce qu'elle nous montre à propos de Dieu. L'Écriture révèle Dieu à l'adorateur, elle guide également la réponse de l'adorateur à Dieu, lui montrant la manière dont nous devons vivre. La Bible est une lampe. Le psalmiste a comparé la parole de Dieu à une lampe qui nous guide sur la façon de vivre. Psaume 119, 105. La Bible est la vérité de Dieu qui nous enseigne comment penser et vivre. Lisez Psaume 19, 7 à 11, Psaume 119, 160 et 2 Timothée 3, 16 à 17. La parole de Dieu est la source de la saine doctrine. La Bible contient toute la connaissance nécessaire au salut et à la sainteté. Ce principe ne signifie pas que nous pouvons tout comprendre dans l'Écriture sans autre aide. Cela ne signifie pas que la tradition n'a pas d'importance. Cela signifie que la parole de Dieu est l'autorité finale pour le croyant. Parce que la parole de Dieu est la source de la vérité, la connaissance de l'Écriture nous prépare et nous équipe pour le ministère. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu avec exactitude, nous enseignons avec l'autorité de Dieu. La vérité lui appartient, pas à nous. La Bible est du lait spirituel. Pierre a dit que les croyants devraient désirer la Bible autant qu'un nouveau-né désire du lait. 1 Pierre 2:2. Tout comme un bébé a besoin de lait pour grandir physiquement, un chrétien a besoin de l'Écriture pour grandir spirituellement. Sans un régime régulier de la parole de Dieu, nous n'atteindrons jamais la maturité spirituelle. Au fur et à mesure que nous apprenons les techniques d'interprétation biblique et que nous nous exerçons à discerner la vérité dans la parole de Dieu, nous mûrissons, Hébreux 5, 14. Notre capacité à utiliser la parole de Dieu pour enseigner aux autres se développe. La Bible est douce comme du miel. Le psalmiste a comparé la parole de Dieu au miel, psaume 19, 10, psaume 119, 103. Le miel est à la fois bon pour la santé et doux. Nous devrions considérer l'étude de la parole de Dieu comme un plaisir et non comme un travail désagréable. Tout comme un soldat à la guerre se réjouit de lire une lettre de sa famille à la maison, nous devrions nous réjouir de lire la Bible, la lettre de Dieu à ses enfants. Lorsqu'un jeune enfant juif commence l'école pour apprendre à lire la loi, le maître mettra du miel sur les premières lettres de l'alphabet et l'enfant léchera la page pour en goûter la douceur. Le maître utilise cette leçon par l'objet pour que l'enfant apprenne à associer la loi au plaisir et au bon goût. Ephraim Rubin, Honey in Jewish Law, Lore, Tradition and More, Shabbat.org. La Bible est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est notre arme dans les batailles spirituelles, Éphésiens 6, 17. Lorsque Jésus a été confronté à la tentation dans le désert, il a répondu aux attaques de Satan en citant Deutéronome, Matthieu 4, 1 à 11. L'Écriture nous donne la force de remporter une victoire spirituelle et d'exercer un ministère efficace. Grâce à l'étude de la Bible, nous sommes préparés à répondre aux fausses doctrines, à établir nos congrégations dans la vraie doctrine et à exercer un ministère efficace dans le monde d'aujourd'hui. Raison inappropriée pour étudier l'Écriture, lire Hébreux 4, 12 à 13. Il existe de nombreuses bonnes raisons d'étudier l'Écriture, mais parfois les gens lisent ou étudient l'Écriture avec de mauvaises motivations. Certaines personnes étudient l'Écriture simplement pour recueillir des preuves afin de défendre leur opinion. Il se peut même qu'elles souhaitent utiliser leurs connaissances pour contrôler les autres personnes qui sont sous leur influence. Certaines personnes étudient l'Écriture par orgueil. Peut-être pensent-elles qu'elles gagneront un statut spirituel et seront supérieures aux autres. Peut-être veulent-elles que les autres pensent du bien d'elles pour leur réalisation. Ou peut-être pensent-elles que l'étude de l'Écriture les aidera à gagner la faveur de Dieu. Toutes ces raisons sont erronées pour justifier la lecture ou l'étude de l'Écriture. Hébreux 4, 12 à 13 montre l'attitude à adopter envers l'Écriture. Au lieu d'utiliser l'Écriture pour atteindre des objectifs égoïstes, nous devrions nous rappeler qu'elles sont la parole de Dieu et non la nôtre. Nous devrions les étudier avec une attitude de révérence envers Dieu. La Bible est notre autorité et nous devrions nous y soumettre. Lorsque nous l'enseignons aux autres, nous devrions le faire avec humilité. Lorsque nous étudions et enseignons la parole de Dieu de cette manière, elle révèle le péché ou l'erreur dans nos vies et nous montre comment nous en détourner. Elle change nos vies et celles de ceux que nous servons et dirigeons. Comment devrais-je étudier la Bible? Way était d'accord sur l'importance de l'étude de la Bible. Cependant, il ne savait pas comment étudier l'Écriture. Il lui fallait une méthode. Ce cours a pour but de fournir une méthode d'étude biblique efficace. Les pasteurs peuvent utiliser ces étapes pour préparer leurs sermons. Les enseignants de la Bible peuvent utiliser ces étapes pour préparer leurs leçons bibliques. Chaque croyant peut bénéficier de l'utilisation de cette méthode pour sa croissance spirituelle personnelle. La méthode suivie dans ce cours comportera trois étapes. Observation. Dans cette étape, nous nous demandons « Que vois-je dans la Bible ?» Dans cette étape, nous observons autant de détails que possible fournis par de l'Écriture. Trop de lecteurs sautent à l'observation et passent directement à l'interprétation. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre de l'Écriture tant que nous n'avons pas soigneusement observé ce qu'elles disent. Dans l'étape de l'observation, nous examinons les détails du texte lui-même. Nous apprendrons à identifier les détails qui sont importants pour le message de l'Écriture. En particulier, nous étudierons les termes, la structure, la forme littéraire et le contexte. Termes. Lorsque nous étudions un livre de la Bible, nous recherchons des mots qui sont utilisés plusieurs fois dans le livre. 1 Jean utilise une forme du mot « connaître plus de 30 fois en 5 chapitres ». Lorsque nous étudions la lettre de Jean, nous pouvons commencer par retracer ce mot tout au long du livre. Une liste des endroits où Jean utilise le mot « connaître » nous aidera à commencer l'interprétation de son message. Pour comprendre le message de Jean, nous pouvons nous demander, selon Jean, que pouvons-nous connaître et quelles sont les caractéristiques de ceux qui connaissent. Structure. Les livres de la Bible ont été soigneusement rédigés sous l'inspiration du Saint-Esprit. En étudiant un livre comme l'Évangile de Jean, vous découvrirez que Jean a organisé son évangile autour de sept signes qui montrent qui est Jésus. En observant la structure du livre, nous comprenons mieux le but de Jean. Lorsque nous étudions un passage, nous pouvons voir que la structure suit une histoire, comme dans Luc 9, 28 à 36. Elle pourrait donner des raisons pour une conclusion, comme dans Romains 6, 1 à 13. Elle pourrait utiliser des détails pour donner une liste de points, comme dans Éphésiens 6, 13 à 18. Il existe également d'autres types de structures. Forme littéraire, Paul a écrit des lettres très structurées qui défendent son point de vue, à la manière d'un avocat qui construit une plaidoirie jusqu'à son apogée. Pour bien lire l'épître aux Romains ou d'autres épîtres, vous devriez suivre attentivement la logique de Paul. En revanche, Jonas est un court récit historique écrit pour illustrer l'amour de Dieu pour tous les peuples. Pour bien le lire, vous devez vous demander qu'est-ce qui fait de ce récit une histoire surprenante et inhabituelle. Vous êtes alors prêt à interpréter le livre de Jonas en vous demandant que traduisent les détails de cette histoire. Contexte. Ici, nous posons des questions telles que où était Paul lorsqu'il a écrit l'épître aux Philippiens avec son message de joie? Il était à Rome en attente de son procès et d'une éventuelle exécution. La situation nous amène à examiner les raisons pour lesquelles Paul a dit qu'il avait de la joie, parce qu'il ressentait cette joie, même s'il se trouvait personnellement dans une situation difficile. Où était Jean quand les cieux s'ouvrirent pour révéler le plan éternel de Dieu dans le livre de l'Apocalypse? Il était en exil sur l'île de Patmos. Le temps de persécution fit du message de la victoire de Dieu un grand encouragement à la foi. Interprétation. Dans cette étape, nous nous demandons « Que veut dire la Bible ?» Après avoir recueilli des observations autant que possible, nous recherchons le message de l'Écriture. Nous apprendrons à trouver les grands thèmes qui relient un livre, ainsi que le message des chapitres et des versets individuels. Nous nous demanderons quel était le message de ce livre pour les premiers lecteurs. Nous chercherons des principes qui sont vrais à toutes les époques, dans tous les lieux et dans toutes les cultures. Application. Dans cette étape, nous nous demandons comment puis-je appliquer la Bible à la vie et au ministère aujourd'hui? Ce n'est pas assez d'en comprendre le sens si nous ne l'appliquons pas à nos vies. Dans son manuel, Howard Hendricks suggère deux questions concernant l'application. 1. Comment cela fonctionne-t-il pour moi? Cette question examine l'application de l'écriture dans ma vie. 2. Comment cela fonctionne-t-il pour les autres? Cette question examine l'application de l'écriture dans la vie de ceux à qui j'offre mon ministère. En Angleterre, il y a un professeur d'université qui est un spécialiste très respecté de l'histoire de l'Église. Sur le plan académique, il connaît très bien la Bible. Personnellement, il rejette toute croyance en Dieu ou en la parole de Dieu. Cet homme en sait beaucoup sur l'observation et l'interprétation. Malheureusement, il n'a jamais appliqué la vérité de l'écriture à sa vie. Jacques décrit ainsi un tel homme, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Jacques 1, 23 à 24. Le professeur anglais est un cas extrême. Cependant, il existe de nombreuses personnes qui savent ce que disait Dieu l'Écriture, mais qui ne parviennent pas à le mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Une véritable étude de la Bible doit aboutir à une application pratique. Le rôle du Saint-Esprit dans l'interprétation. Un non-croyant peut-il comprendre le sens de l'Écriture? La réponse à cette question est « oui, mais seulement de façon partielle ». Dans ce cours, nous étudierons un processus pour guider notre interprétation. Ces étapes nous aideront à comprendre le message de la parole de Dieu. La Bible, lue comme n'importe quel autre livre, révélera beaucoup de vérités à tout lecteur. Cependant, sans l'illumination du Saint-Esprit, la compréhension d'une personne sera toujours limitée. L'étude intellectuelle, à elle seule, ne peut jamais révéler la vérité spirituelle. Paul a écrit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens 2, 11 à 14. Un non-croyant peut comprendre une partie du message de l'Écriture, mais les vérités profondes de la Bible sont révélées par l'illumination du Saint-Esprit. Étudier de l'Écriture, c'est plus que simplement acquérir des informations. Cela exige de la foi et de l'obéissance. Tant que nous ne nous soumettons pas à l'autorité de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas accomplir son œuvre transformatrice dans nos vies. Pour cette raison, 1. Notre étude de l'Écriture doit être précédée d'une prière. Nous devons demander au Saint-Esprit de guider notre étude. Jacques a écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jacques 1, 5. 2. Notre étude de l'Écriture doit être suivie d'une réponse personnelle. Le but de l'étude de la Bible est plus qu'une simple information intellectuelle, le but est-il la transformation personnelle. Si nous ne sommes pas transformés par notre étude, nous avons raté le but de l'étude. Cette transformation ne vient que par le Saint-Esprit. Dans la parabole de Jésus à propos du semeur et la semence, une partie de la semence tomba le long du chemin et fut mangée par les oiseaux. Une autre partie n'avait pas de racines et mourut lorsque le soleil devenait chaud. Une autre partie fut étouffée par les épines. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre et porta du fruit. Jésus explique que la bonne terre, c'est la personne qui entend et comprend la parole, Matthieu 13, 3 à 23. Cette parabole montre qu'il est possible d'entendre la parole sans la comprendre. Nous ne comprenons pleinement la parole de Dieu que lorsque nous ouvrons notre cœur à la voix du Saint-Esprit. Leçon 1. Point clé. 1. Raison d'étudier la Bible. Dieu se révèle à travers l'Écriture. La Bible est une lampe. La Bible est du lait spirituel. La Bible est douce comme du miel. La Bible est l'épée de l'esprit. 2. Le processus d'étude de la Bible comporte 3 étapes. Observation, que vois-je dans la Bible? Étude, terme, structure, forme littéraire. Contexte. Interprétation, que veut dire la Bible? Application, comment puis-je appliquer la Bible à la vie et au ministère aujourd'hui? Demandez-vous, comment cela fonctionne-t-il pour moi? Comment cela fonctionne-t-il pour les autres? 3. Nous devons avoir l'illumination du Saint-Esprit lorsque nous étudions la Bible, pour cette raison. Notre étude de l'Écriture doit être précédée d'une prière. Notre étude de l'Écriture doit être suivie d'une réponse personnelle.